Alors, puisqu'on découvre ainsi cette action de grâce comme le lieu où l'on reçoit cette promesse de vie éternelle, parce qu'on a découvert la bonté de Dieu à notre égard, et qu'on sait que la bonté de Dieu dépasse même nos espérances, comment est-ce qu'on le met en pratique? Comment est-ce qu'on peut le mettre en pratique? Et là, il faut regarder encore ce que fait ce lépreux samaritain. La première chose, il va revenir sur ses pas. En fait, c'est un effort, ça. De revenir sur ses pas, ah, j'ai une prise de conscience, et j'ai pas simplement une prise de conscience, je reviens sur mes pas, je vais faire un chemin. Oui, il y a un effort. C'est vrai qu'il y a un effort pour vivre l'action de grâce, pour la mettre en pratique. Parce que la blessure du péché originel fait que le mouvement naturel, vous savez, je parlais du sourire de l'enfant, voit un jaillissement du coup moins spontané, il est comme un peu empêché. Et puis c'est pas simple de faire monter l'action de grâce en allant jusqu'à Dieu qui est toute source de toute chose. Pourquoi? Parce que nous on est des êtres incarnés, et Dieu est invisible, alors ce qu'on voit pas, c'est difficile d'en prendre conscience. C'est plus difficile, c'est pas impossible, mais c'est plus difficile. Quand j'étais devant moi, c'est un peu plus simple. Donc il y a un effort qui doit être fait. Je remonte jusqu'à Dieu. Et puis, c'est vrai aussi, il y a un orgueil qui doit être contenu. Qu'est-ce que ça veut dire? La capacité de se réjouir sans s'enorgueillir. Vous voyez, imaginons, j'allais dire, une action de grâce pour un beau vêtement, une belle parure. L'âme vraiment reconnaissante ne va pas dire « Voyez comme je suis belle avec cette parure !» Mais elle va dire « Voyez comme il est bon et riche le Seigneur qui a revêtu ma misère, qui a revêtu ma pauvreté d'une si belle parure. » Et on a besoin de dépasser le piège de l'orgueil, qui a été le piège du Satan. Il s'est enorgueilli de sa beauté, la beauté qu'il avait reçue de Dieu. Et du coup, notre acte d'action de grâce, comment est-il appelé à être mené? Eh bien, on pourrait retenir trois choses. Dieu fait chair. Dieu fait chair. Jésus. Mon action de grâce, comme le Samaritain qui revient et qui rend grâce au Seigneur Jésus pour glorifier Dieu, eh bien, je vais rendre grâce au Seigneur Jésus. Tu es le Dieu qui s'est fait chair, qui s'est fait visible, qui s'est fait audible. Et je te remercie, Seigneur, pour ce que tu as fait pour moi, et je te remercie pour ce que tu fais pour moi par l'incarnation de mes frères. Quand quelqu'un m'a fait du bien, en fait, il est le messager du Christ qui me fait du bien. Et quand vous vous faites du bien aux autres, quand vous rendez service, vous êtes les messagers du Christ, vous êtes son regard, vous êtes ses mains, vous êtes ses paroles. Ça, je peux le comprendre grâce à l'incarnation. Tu es le Dieu qui s'est fait chair, qui s'est fait audible et qui se fait visible par les frères que tu me donnes. Donc mon action de grâce, elle est vis-à-vis du Dieu qui s'est fait chair. Ok. Deuxième point. Chair masculine de Jésus. Alors qu'est-ce qu'on va comprendre? Alors attention, je ne rentre pas du tout dans les polémiques de l'heure actuelle qui fait une espèce de lutte des classes entre la lutte des sexes. Mais c'est simplement au niveau symbolique. L'alliance de l'homme et de la femme, lorsque l'homme s'unit à sa femme, il lui fait le don de sa semence. Et il va la rendre féconde. Et elle va porter du coup en elle un don qu'elle va déployer, qui va grandir, qu'elle va donner au monde, qu'elle va mettre au monde et donner au monde. Chair masculine, c'est pour dire Dieu nous fait un don que nous allons porter dans notre âme pour le faire grandir et le donner au monde. Dieu nous donne un cadeau, un présent vivant qui va être remis au monde. Dieu va nous donner, va activer en nous cette potentialité. Seigneur, le bien que tu m'as fait, c'est un don qui est appelé à grandir en moi pour porter un fruit, et ce fruit, je vais pouvoir l'offrir au monde. Quand on dit chair masculine de Jésus, c'est ça qu'on comprend. Il nous fait un don que notre âme, en mon position féminine, va porter et va avoir la joie et la gloire de donner au monde. Et puis, troisième chose, et ça, c'est une chose qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Chair juive de Jésus. Alors, la chair juive de Jésus, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Il s'est bloqué dans l'Ancien Testament, le Père Wurtz, aujourd'hui, ou quoi? Donc, chair juive de Jésus, ça veut dire une chair qui est pétrie de l'histoire, qui Il y a une histoire, elle ne vient pas de n'importe où. Elle a une histoire, elle a une mémoire, elle a une sagesse. Et c'est extrêmement important pour nous. Je reprendrai encore un petit exemple dans la vie du petit enfant. Le petit enfant, il court partout, de temps en temps il dérape, paf, il tombe par terre, il s'écorche le genou. Alors il pleure parce qu'il a mal d'une part, et il pleure aussi parce qu'il a peur que la douleur ne s'arrête jamais. Il n'a pas l'expérience encore pour savoir est-ce que cette douleur va s'arrêter. Ou est-ce que non, je vais avoir mal tout le temps comme ça. Et celui qui peut le consoler, justement, c'est le parent, l'adulte qui a une histoire derrière lui, une connaissance de ce qui se passe avec le corps humain, de sa capacité à être soigné, de sa capacité à être guéri. Et la sagesse partagée va permettre à celui qui notamment connaît l'épreuve ou ne sait plus où il en est, à retrouver des repères. Eh bien, la chair d'Israël, c'est cette histoire de Dieu avec son peuple, une histoire qui a été si compliquée, parce que marquée de tant d'infidélités, mais aussi de tant de miséricordes connues, de tant d'expériences de la fidélité du Seigneur, de tant d'expériences de la grâce du Seigneur qui a ouvert des passages là où il n'y en avait pas. Et ça, depuis la mer Rouge. On était sortis d'Égypte et on se retrouve, il y a la mer Rouge d'un côté, les chars de Pharaon de l'autre, on est perdu, il n'y a pas de passage. Et le Seigneur ouvre un passage dans la mer. Le Seigneur est celui qui ouvre un passage dans nos vies. Et quand on n'a pas cette mémoire, il y a des moments où dans nos vies, on se dit, mais il n'y a pas d'issue. Comment je peux trouver, comment je peux espérer quelque chose? Il n'y a pas d'issue, j'en vois pas. Alors j'ai peur, je suis en colère contre tout le monde, pourquoi tu m'as mené ici? Et c'est la possession de l'histoire de Dieu avec son peuple qui me permet d'avoir confiance, qui me permet de me tourner vers lui, qui me permet de percevoir et d'accueillir le chemin qu'il ouvre. Voilà l'action de grâce que nous pouvons vivre. Une action de grâce qui s'adresse au Dieu qui s'est fait chair, qui s'est fait visible et qui se rend visible aujourd'hui à travers nos frères. Une action de grâce au Dieu qui s'est fait chair masculine, c'est-à-dire qui nous donne, qui donne à notre âme un don, qui va porter du fruit et qui va être donné au monde, partagé au monde, comme on met un enfant au monde. Une action de grâce de cette chair juive qui porte une histoire et une sagesse, qui est appelée à devenir la nôtre, parce qu'elle nous permettra de découvrir les passages que le Seigneur Jésus nous ouvre et nous donne. Seigneur Jésus, en ce dimanche, à l'école du Samaritain lépreux, nous voulons apprendre à rendre grâce pour les dons que tu nous fais, pour ta médiation très sainte, pour le Père source de tout bien. Que notre action de grâce, saisie dans l'action de grâce plénière qu'est l'Eucharistie, ancre en nous la conscience de la promesse du ciel dont la bienveillance du Père est porteuse. Qu'elle illumine nos vies dès à présent et nous permette d'en rayonner auprès de nos frères humains. Amen.